36.
J'ai comme l'impression, dit Pélorat, qu'il doit être assez tard dans la journée. Pourtant, l'éclairement laisserait croire qu'on est aux alentours de midi.
Je soupçonne, expliqua Trévise en contemplant le paisible panorama, que votre impression provient de la teinte orangée du soleil, qui donne à la lumière cet aspect crépusculaire. Si nous sommes encore là au moment réel de son coucher et que les formations nuageuses l'autorisent, nous devrions contempler un crépuscule d'un rouge plus profond que celui auquel nous sommes habitués. J'ignore si nous le trouverons superbe ou déprimant. À vrai dire, ce devait être encore plus extrême sur Comporellon, mais là-bas nous sommes restés enfermés pratiquement tout le temps. Il pivota lentement pour considérer le paysage dans toutes les directions. Ajouté à l'étrangeté presque subliminale de la lumière, il y avait le parfum particulier à ce monde, à cette partie du monde, du moins. Une vague odeur de moisie, mais loin d'être franchement déplaisante. Les arbres proches étaient de hauteur moyenne et paraissaient âgés, avec leur écorce noueuse et leur tronc légèrement de biais, bien qu'on ne pût dire si c'était à cause des vents dominants ou de la mauvaise qualité du sol. Étaient-ce ces arbres qui donnaient à l'ambiance quelque chose de menaçant? Ou bien autre chose? Quelque chose de moins matériel? Joie demanda à Trévise ce qu'il comptait faire.
Nous n'avons quand même pas parcouru tout ce chemin pour admirer le paysage.
À vrai dire, c'est peut-être quant à moi ce que je devrais me contenter de faire désormais. Je suggère que Janoff explore les lieux. Il y a des ruines là-bas dans cette direction et c'est lui qui pourra juger de la valeur des éventuelles traces qu'il pourra y trouver. J'imagine qu'il saura déchiffrer les écrits ou les films en galactique archaïque, alors que je m'en sais pertinemment incapable. Et je suppose, Joie, que vous voudrez l'accompagner pour le protéger.
De mon côté, je resterai ici, à guetter les abords.
Guetter quoi? Des primitifs munis de pierres et de bâtons?
Peut-être.
Puis le sourire qui avait effleuré ses lèvres disparut, comme il ajoutait. Paradoxalement, Joie, cet endroit me met légèrement mal à l'aise. Je ne saurais dire pourquoi.
Venez, Joie, dit Pélorat. Toute ma vie, j'ai été un collectionneur en chambre de vieux récits, de sorte que je n'ai jamais concrètement mis la main sur des documents antiques. Imaginez un peu que...
Trévise les regarda s'éloigner, la voix de Pélorat diminuant, tandis qu'il se dirigeait d'un bon pas vers les ruines. Joie avançait d'une démarche chaloupée à ses côtés, tout en l'écoutant avec un sourire ravi. Trévise leur prêta une oreille distraite, puis se retourna pour poursuivre son examen du secteur. Qu'est-ce qui pouvait bien motiver son appréhension? Il n'avait jamais réellement posé le pied sur un monde dépourvu de population humaine, mais il en avait contemplé quantité depuis l'espace. D'ordinaire, il s'agissait de petites planètes, pas assez vastes pour conserver de l'eau ou de l'air, mais qui avaient leur utilité comme point de ralliement au cours des manœuvres navales. Il n'y avait pas eu de conflit de son vivant, ni même durant le siècle précédant sa naissance, mais les manœuvres se poursuivaient, ou pour les exercices de réparation urgente, lors de simulations d'avarie. Les vaisseaux sur lesquels il s'était trouvé avaient orbite autour, ou même s'étaient posés sur de telles planètes, mais il n'avait jamais eu l'occasion de quitter le bord à ces occasions. Était-ce parce qu'il se trouvait à présent sur un monde inhabité? Aurait-il éprouvé la même sensation s'il s'était trouvé sur un des innombrables petits astres dépourvus d'atmosphère qu'il avait rencontrés durant ses années de formation, et même depuis? Il secoua la tête. Cela ne l'aurait pas tracassé, il en était certain. Il aurait été vêtu d'une combinaison spatiale, tout comme les innombrables fois où il flottait avec son vaisseau librement dans l'espace. C'était une situation familière, et le contact avec une simple boule de roc n'aurait produit aucune altération de ce sentiment de familiarité, sans aucun doute. Évidemment, cette fois-ci, il ne portait pas de combinaison. Il se tenait sur un monde habitable aussi confortable que l'était Terminus, bien plus confortable que ne l'avait été Comporellon. Il goûtait la caresse du vent sur sa joue, la chaleur du soleil dans son dos, le frisli de la végétation à ses oreilles. Tout était familier, sauf qu'il n'y avait pas d'êtres humains. Ou du moins plus.
Était-ce cela? Cela qui rendait apparemment ce monde aussi inquiétant? Était-ce qu'il n'était pas seulement inhabité, mais déserté? Il n'avait jamais encore visité de monde abandonné, jamais entendu parler d'un tel phénomène, jamais imaginé même qu'il puisse produire. Toutes les planètes qu'il avait connues jusqu'à présent, une fois peuplées par les hommes, le restaient, à perpétuité. Il leva les yeux vers le ciel. Rien d'autre ne l'avait déserté. De temps à autre, un oiseau traversait son champ visuel, vision d'une certaine façon plus naturelle que le fond du ciel bleu ardoise qui apparaissait entre les nuages de beau temps teintés d'oranger. Trévis était certain qu'au bout de quelques jours sur la planète, il finirait par s'habituer à ces bizarreries au point que le ciel et les nuages lui paraîtraient normaux. Il entendait des chants d'oiseaux dans les arbres et le bruit plus doux des insectes. Joie avait mentionné plus tôt l'existence de papillons, et effectivement ils étaient là, en nombre surprenant, et en plusieurs variétés riches de couleurs. Il nota également des froissements occasionnels dans les touffes d'herbe qui entouraient les arbres, mais il fut incapable d'en discerner la cause. La présence manifeste de la vie dans les parages ne soulevait en lui aucune crainte. Comme l'avait dit Joie, les mondes terraformés étaient, depuis le tout début, dépourvus de bêtes dangereuses. Les contes de fées de l'enfance et l'héroïque fantasy héroïque de son adolescence étaient invariablement situés sur un monde légendaire, sans doute dérivé de vagues mythes terrestres. Les hyperdrames sur holo-écran étaient remplis de monstres, lions, licornes, dragons, baleines, brontosaures, ours. Il y en avait des douzaines dont les noms ne lui revenaient plus, certains sans aucun doute mythiques, et peut-être tous. Il y avait des animaux plus petits qui mordaient ou piquaient, et même des plantes dangereuses au toucher. Mais tout cela n'existait que dans les romans. Il avait également eu l'occasion d'entendre que les abeilles primitives étaient capables de piquer, mais indubitablement, aucune abeille réelle n'était le moins du monde dangereuse. À pas lents, il partit vers la droite, longeant le pied de la colline. L'herbe était haute et luxuriante, mais rare, poussant par touffes. Il se fraya un chemin parmi les arbres qui croissaient également en bouquets. Puis il bâilla. Certes, il ne se passait rien de palpitant. Et il se demanda s'il ne ferait pas mieux de regagner le vaisseau pour s'offrir un petit somme. Non. Impensable. Manifestement, il fallait qu'il monte la garde. Peut-être qu'il devrait jouer les sentinelles, marcher, une, deux, demi-tour droite et manipulation complexe avec une électrocanne de parade. Une arme qu'aucun guerrier n'avait utilisée depuis 3 siècles, mais qui demeurait absolument essentielle à l'exercice, sans que personne pût en avancer la raison. L'idée le fit sourire, puis il se demanda s'il ne vaudrait pas mieux qu'il rejoigne Pellorat et Joie dans les ruines. Pourquoi? À quoi leur servirait-il? À supposer qu'il voit une chose que Pellorat aurait négligée, eh bien il serait toujours temps de tenter le coup après le retour de celui-ci. S'il y avait un élément aisé à trouver, qu'au moins Pellorat ait sa chance de le découvrir. Risquait-il l'un ou l'autre de courir un danger? Stupide. Lequel? Et puis, s'il y avait réellement danger, il pourrait toujours l'appeler à l'aide. Il s'arrêta pour prêter l'oreille. Il n'entendit rien. Et puis, l'irrésistible envie de jouer les sentinelles lui revint, et il se surprit à marcher en faisant résonner ses pas, l'électrocanne imaginaire décollant de l'épaule, tournoyant pour se tendre droit devant lui, parfaitement vertical, nouveau tournoiement et retour sur l'autre épaule. Puis, après un vif demi-tour, il se retrouva de nouveau face au vaisseau, assez loin maintenant. Ce faisant, il se figea bel et bien. Et cette fois, plus seulement pour jouer les sentinelles. Il n'était pas seul. Jusqu'à présent, il n'avait pas vu d'autres créatures vivantes, sinon des plantes, des insectes, un oiseau à l'occasion. Il n'avait vu ni entendu approcher quoi que ce fût. Et voilà qu'un animal se tenait entre lui et l'astronef. L'absolue surprise devant cet événement inattendu le priva momentanément de la capacité d'interpréter ce qu'il voyait. Ce ne fut qu'après coup qu'il reconnut ce qu'il avait devant lui. Ce n'était qu'un chien. Trévise n'était pas très chien. Il n'en avait jamais eu un et n'éprouvait aucun élan d'amitié envers ceux qu'il croisait. Il n'en éprouva pas plus cette fois-ci, mais observa, non sans une certaine impatience, qu'il n'y avait pas de planète où ces créatures n'eussent pas accompagné l'homme. Il en existait d'innombrables variétés, et Trévise avait depuis longtemps la lassante impression que chaque monde en possédait au moins une variété caractéristique. Néanmoins, toutes avaient cette constante, qu'ils fussent dressés pour l'agrément, le spectacle ou quelque forme d'activité utile, les chiens étaient élevés pour aimer l'homme et lui faire confiance. Un amour et une confiance que Trévise n'avait jamais appréciés. Il avait vécu avec une femme qui possédait un chien. Celui-ci, que Trévise tolérait par amour pour la femme, avait nourri à son égard une profonde adoration. Il le suivait, se couchait sur lui quand il se reposait, de tous ses 25 kilos, le couvrait de salive et de poils aux moments les plus incongrus, et s'asseyait devant la porte en gémissant chaque fois que la femme et lui tentaient d'avoir des rapports sexuels. Trévise était sorti de cette expérience avec la conviction bien ancrée que pour quelques raisons seulement connues de l'esprit canin et de sa capacité à analyser les odeurs, il était un objet définitif de la dévotion des toutous. Par conséquent, une fois passée la surprise initiale, il examina l'animal sans inquiétude. C'était une bête de grande taille, efflanquée, haute sur pattes, et qui le fixait sans signe évident d'adoration. Il avait la gueule ouverte, en ce qui pouvait passer pour un sourire accueillant. Mais l'écrou, ainsi découvert, avait quelque chose d'imposant et de dangereux, et Trévise jugea qu'il se sentirait plus à l'aise sans la bête dans son champ visuel. Il lui vint alors à l'esprit que ce chien n'avait jamais vu d'être humain, pas plus que d'innombrables générations canines précédentes. Il était fort possible que l'animal eût été aussi surpris et décontenancé par cette soudaine apparition d'un homme que Trévise l'avait été par celle du chien. Au moins Trévise avait-il rapidement reconnu le chien pour ce qu'il était. Mais ce dernier n'avait pas cet avantage. Il était toujours intrigué et peut-être inquiet. À l'évidence, il n'était pas sans risque de laisser un animal de cette taille et doté de telles dents dans un état d'inquiétude. Trévise se rendit compte qu'il allait être nécessaire d'instaurer au plus tôt des relations amicales. Très lentement, il s'approcha du chien, pas de geste brusque, bien sûr. Il tendit la main, prêt à se laisser renifler, et émit de petits bruits apaisants consistant pour la plupart en « Oh, le gentil toutou !» une chose qu'il considérait comme intensément embarrassante. Le chien, les yeux fixés sur Trévise, recula d'un ou deux pas, comme saisi de méfiance. Puis sa babine supérieure se plissa en un rictus, tandis que de sa gueule sortait un grondement rauque. Bien que Trévise n'eût jamais vu de chien se conduire ainsi, il était impossible d'analyser ce comportement autrement que comme une menace. En conséquence, il cessa d'avancer et se figea. Du coin de l'œil, il saisit un mouvement et tourna lentement la tête. Deux autres chiens s'approchaient, l'air tout aussi meurtrier que le premier. Meurtrier ? L'adjectif ne lui était venu qu'à l'instant, et sa menaçante justesse était indubitable. Son cœur se mit soudain à battre la chamade. Le passage vers le vaisseau était bloqué. Impossible de courir au hasard car ses longues pattes canines pourraient le rejoindre en quelques mètres. S'il restait sur place et faisait usage de son désintégrateur, alors tandis qu'il en tuerait un, les deux autres lui sauteraient dessus. Dans le lointain, il pouvait voir approcher d'autres bêtes. Communiquaient-elles d'une manière ou d'une autre? Chassaient-elles en meute? Lentement, il glissa vers la gauche, dans une direction où il n'y avait pas encore de chien. Pas encore. Lentement. Lentement. Les molosses suivirent son mouvement. Il était certain que tout ce qui le sauvait d'une attaque instantanée était le fait que les chiens n'avaient encore jamais vu ou flairé quelque chose de semblable. Il n'avait pas encore établi de schéma de comportement à suivre en un tel cas. S'il détalait, bien entendu, cela représenterait pour les chiens une attitude familière. Il saurait que faire si une créature de la taille de Trévise trahissait sa peur et courait. Ils courraient, eux aussi, plus vite. Trévise continuait d'avancer de biais vers un arbre. Sa plus grande envie était de grimper là où il ne pourrait le suivre. Ils avancèrent avec lui, grondant doucement de plus en plus près. Tous les trois le fixaient sans ciller. De nouvelles bêtes les rejoignirent, et plus loin, Trévise en voyait approcher d'autres. À un moment, quand il serait assez près, il faudra qu'il fonce. Il ne fallait pas qu'il attende trop longtemps ou qu'il démarre trop tôt, là où l'autre choix pouvait être fatal. Maintenant ! Il établit sans doute un record personnel, mais ne sentira que de justesse. Il sentit le claquement des mâchoires tout contre l'un de ses talons, et l'espace d'un instant se sentit retenu avant que les dents ne glissent sur le céramoïde coriace. Grimper aux arbres n'était pas son fort. Il n'en avait pas escaladé un depuis l'âge de 10 ans, et pour autant qu'il se souvienne, l'entreprise avait été laborieuse. Dans le cas présent toutefois, le tronc n'était pas tout à fait vertical, et l'écorce noueuse offrait de nombreuses prises. Qui plus est, il était poussé par la nécessité, et c'est fou ce que l'on peut accomplir quand le besoin est suffisamment pressant. Trévise se retrouva assis sur une fourche, à 10 mètres peut-être au-dessus du sol. Pour l'heure, il ne s'était absolument pas rendu compte qu'il s'était éraflé la main et saignait. Au pied de l'arbre, 5 chiens étaient à présent assis, le nez en l'air, langue pendante, apparemment bien installés pour prendre leur mal en patience. Et maintenant ?